Micro ouvert.
Tu vas t'asseoir avec les autres et tu dis pas un mot.
Jacques, écoute-moi, pensons à notre public.
Vous avez compris? Vous avez vu ce qui est arrivé à Marielle, un acteur de grande valeur? Vous voulez que j'ampute un autre? Un Villeray, par exemple? Un Dusselier? C'est pas marrant d'avoir le mauvais rôle, hein? Maintenant, c'est moi qui ai le bon. J'en ai plein le cul, figurez-vous, de jouer les hommes du monde. J'emmerde les hommes du monde. Moi aussi, je peux dire mes couilles, m'habiter mon couteau. Enculé, fils de pute. Je me crache au cul. Là qui pleut. Pourquoi? Moi, je suis fatigué. Je suis pas un vieil acteur. Je suis un mec terriblement dangereux.
J'avais un pot d'eau chaude. Ça intéresse quelqu'un?
Et moi, j'intéresse qui? J'ai même pas de personnage. Y a pas de metteur en scène dans ce film de merde? Où il est, ce compte blié?
Eh ben voilà, à la gare du Nord, hein. Je me souviens de la gare du Nord quand c'était les gilets jaunes, moi. Il y avait des rassemblements ici, beaucoup... Et donc voilà, quoi, vous vous présentez?
Ouais. Allez, je m'appelle Raymond. Donc je m'appelle Raymond, je suis coordinateur dans le social à Bruxelles. Voilà, j'habite à Hatt, 59 ans. Voilà.
Bon, voilà. Et ça va bien?
Ça
en séjour? On est le 24 décembre, ça raconte quelque chose pour vous?
Pas
24 décembre, vous n'êtes pas un peu... C'est être religieuse aussi, hein?
Oui, mais moi, la religion, même si j'étais en école catholique, bon, je m'en fous un peu. Et le 24 décembre, pour moi, ne représente pas grand-chose.
Non?
Pas du tout. Pas du tout, ça ne représente pas. C'est une fête que, comme toutes les fêtes. Et puis moi, ce soir, je travaille, je rentre à la maison, je vois ma femme, on discute et puis je vais au lit. Voilà.
Tout simplement?
Oui, tout simplement, oui.
C'est un jour comme un autre.
Ouais, bah oui, je suis là, je vais travailler et puis c'est un jour comme un autre pour moi, vraiment. C'est pas quelque chose qui me... Ouais, non, les fêtes de Noël, non, c'est pas quelque chose qui me touche.
Vous n'avez pas d'enfants?
Oui, mais là, ils sont pas là. Ils sont tous grands, ils sont tous dans les belles familles et tout ça. On les voit demain soir, ils viennent manger à la maison demain soir.
Ah, voilà.
Oui, mais c'est parce que c'est eux qui ont insisté. Oui, on organise un truc parce qu'ils sont habitués. En général, quand je les invite, c'est moi qui cuisine. Et là, demain, je ne cuisine pas. C'est eux qui vont tout préparer et je n'aurai rien à faire. Donc voilà.
Bon, ben nous, on se rend compte parce que vous publiez régulièrement, mais je crois pas depuis longtemps non plus. Ça s'appelle Chronique. Et voilà, c'est plein de billets, de postes, comme on dit, très social, quoi, très politique. C'est juste ce que je dis?
Oui, tout à fait, oui. C'est social, c'est politique, c'est écologiste, c'est féministe. Tout ce qui est en train d'être combattu en ce moment. Parce que bon, moi, j'ai créé ce blog et cette page Facebook en août de cette année.
Il n'y a pas longtemps, alors?
Ah non, pas du tout. C'est vraiment pas long. Ça fait pas longtemps et je l'ai créé parce que j'en avais un peu marre d'entendre le discours ambiant, tout ce qui est en train de se passer. Mais je veux pas faire de la politique parce que je veux rester quelqu'un de libre. Et donc je me dis comment je fais. Et quand j'avais du temps dans le train, je fais à peu près 2h30 de train tous les jours pour venir travailler. Et j'utilise ce temps pour travailler sur mon blog, travailler sur des textes, pour m'informer, pour écouter des podcasts. Et voilà. Et j'ai commencé à travailler là-dessus. Et de là est venue l'idée de faire cette page Facebook et de travailler sur mon blog pour parler de tous ces sujets qui me tiennent à cœur. Voilà.
Donc si je comprends bien, vous vous renseignez ailleurs pour faire votre article, évidemment, parce que vous n'êtes pas journaliste, voilà, hein, parce que si je peux juste dire ça, vous citez pas vos sources, en fait, hein, vous mettez...
Je cite des sources quand ce sont des sources institutionnelles, mais ma source principale sur pas mal de sujets, c'est ma femme. Ma femme, c'est ma muse un peu. On discute beaucoup tous les deux de sujets de société, de sujets de tous les jours. Elle est sociologue et donc ça m'aide un peu à avoir un regard méta sur certaines choses et de réfléchir de certains sujets. Ensuite, quand un sujet me tient à cœur, qu'il m'intéresse et tout, ce que je fais, c'est que voilà, je vais chercher des infos. Je vais écouter un blog.
Mais où, comment ? Moi, c'est ça qui m'intéressait aussi, parce que on voit bien que quand vous faites un post, bah, c'est aussi en fonction de l'actualité, quoi. C'est pas que vous sortez, une information Voilà, c'est actuel, quoi. Ouais, voilà, c'est pas un truc que vous sortez de votre chapeau et que vous avez lu 4 livres dessus ou plus ou moins. Vous êtes quand même dans l'air du temps, quoi.
Oui, parce qu'en fait, je suis abonné à tout ce qui se fait d'un point de vue presse. Je suis, que ce soit de la presse de droite ou de la presse de gauche.
Citez-moi-en, comme ça on comprend.
Bah, la Libre Belgique, Le Soir, je regarde même de temps en temps la DH, parce que ça me permet de voir un peu ce qui se passe et ce que les gens pensent. En France, beaucoup, parce que j'ai vécu très longtemps en France, donc que ce soit Le Figaro, Le Monde, des Marianne.
Tous les mois, vous vous procurez tout ça ?
Non, en fait, ils sont sur Internet, je prends des abonnements et je vais lire un peu ce qui se dit, ce qui se fait, que ce soit de droite ou de gauche. Sur Facebook, je suis abonné à beaucoup de pages qui parlent d'écologie, de social et de ça. Et sur YouTube, sur Blast, par exemple, Le Média ou des médias comme ceux-là que j'écoute beaucoup. Et les podcasts. Ma femme m'a beaucoup amené sur les podcasts. Un peu, il y avait un podcast d'une jeune femme que j'adore, c'est Les couilles sur la table ou des choses comme ça. Et donc voilà, j'écoute ce genre de choses, je me fais une idée, je m'informe. Et quand un sujet d'actualité arrive, je dis, ah tiens, ce sujet-là, il me parle. Mais je ne le connais pas bien, j'ai envie de savoir. Et hop, voilà, je vais chercher des infos, je regarde un peu ce qui se fait, mais j'essaie de voir un peu ce qui se dit sur tous les angles. Ça soit de gauche, soit à droite, le pour et le contre. Et je me fais un peu mon idée, j'en parle avec ma femme, elle me donne un peu aussi son point de vue, et voilà, et je pars de là.
Et quoi, un exemple alors, pour qu'on comprenne, quel genre de thème vous travaillez ?
L'exemple tout bête, c'était, j'ai fait un post dernièrement sur le masculinisme. C'était très intéressant parce que j'avais fait un post sur les soirées non mixtes, où beaucoup de femmes vont en ce moment et tout. Bon, c'est pas nouveau, mais voilà, on en parlait. Et en allant me balader avec ma femme, on va balader le chien, je travaillais pas. Et hop, on part se balader tous les deux avec le chien. Et on commence à parler de ce sujet. Et de là est venu le masculinisme. Et on avait déjà discuté de ce sujet-là avant. Et je dis, tiens, ça c'est quelque chose d'intéressant. Le masculinisme, c'est vrai que les gens n'en parlent pas. Hein, on parle du féminisme, mais on parle pas du masculinisme. Mais j'ai voulu le prendre sur un autre angle. J'ai voulu prendre le masculinisme sous un angle commercial. Parce que beaucoup de masculinistes sont sur YouTube, font des posts, mais en même temps vendent des formations. Et donc, je voulais travailler là-dessus. Et donc, je me suis informé quels sont les masculinistes qui font ça, comment ils fonctionnent, quels sont leurs biais, quel est leur angle d'attaque. Et voilà, j'ai voulu travailler là-dessus.
Ok, parce que c'est marrant. Parce que... Donc ça fait depuis le mois d'août, c'est pas long, hein.
Non.
Et quoi, qu'est-ce que vous avez... Parce que vous avez fait aussi un post pour un peu expliquer pourquoi vous faisiez des posts.
Alors, ouais, pourquoi je fais des posts? On s'aperçoit que si je regarde un débat télévisé, par exemple, plus personne ne s'écoute, plus personne ne peut poser quelque chose posément, discuter, développer son point de vue. Ça me dérangeait beaucoup. Et vu que je suis beaucoup de podcasts où on a le temps de développer une idée, une pensée, et moi je dis comment je peux faire moi pour développer mon idée, ma pensée.
La question c'est... Il y a une alternative aux médias mainstream, vous êtes d'accord avec ça, hein ? Bon, vous avez cité Blast, vous avez cité les couilles sur la table, là. Enfin, moi, quand je discutais avec les gens parlent... Il y a une alternative, heureusement qu'elle est là, d'ailleurs. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi vous avez, vous, envie aussi de rajouter... Oui, alors, c'est ça.
Je me suis aperçu, quand je discute, par exemple, avec des collègues, que les gens ne sont pas informés souvent. Ils savent pas... Ah oui, ça existe, ça ? Oh, je connais pas, et tout, et tout. Et je me dis, tiens, est-ce que moi, je peux amener ma petite pierre à l'édifice ? Est-ce que moi, je peux amener, avec mon point de vue, avec ma curiosité, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, j'adore aller fouiller un peu partout, et je me dis, bah, tiens, cette curiosité, est-ce que je peux la mettre au service aussi des gens, en leur disant, bah, oui, tiens, ça, ça existe, tiens, ce point de vue-là est là, tiens, il y a un podcast qui existe, il y a tel bouquin, et voilà. Et j'essaie de faire un peu comme ça. Après, c'est pas pour faire diffuser ma pensée, c'est pour avoir le temps de se poser, de discuter d'un sujet, d'amener la contradiction.
Vous disiez aussi dans le post que, enfin, moi, j'aimais bien ça, vous disiez, voilà, nous, on est quand même, enfin, vous... vous étiez un peu privilégié, vous travaillez, vous n'êtes pas dans le besoin, vous êtes dans une vie confortable, c'est aussi une contribution. Vous parliez de responsabilité, de faire des postes pour un peu éveiller les gens aussi, quoi, non ?
Oui, ce point-là, il était important.
Vous n'en parlez plus maintenant ?
Bah oui, mais...
Là, maintenant, quand on échange, vous faites comme si vous vouliez informer les gens.
C'est pas que je veux informer les gens. Il y a aussi ce point de vue-là, d'une responsabilité. Je suis quelqu'un qui a cette capacité, cette possibilité d'avoir des informations, de lire, de prendre des points de vue et tout et tout. Et c'est aussi ma responsabilité de faire ça, de partager ça. Quand on sait des choses, pourquoi on se les garde ? Il ne faut pas se les garder, il faut les partager, il faut les faire connaître, il faut donner des points de vue. Ben voilà, moi je trouve que c'est important aussi. Ça fait partie de la responsabilité qu'on a en tant que citoyen, c'est d'échanger, de donner des points de vue. Et de, ben voilà, j'ai une information, je ne vais pas me la garder. Voilà, si je peux la
parler. Non, moi je voyais pas ça comme ça. Mais après, on patine un peu, je trouve. Je veux dire, non, moi je pensais que, parce que vous parliez des gens qui vivent dans la rue aussi. Parce que, enfin voilà... Le fait d'informer, le fait de faire son petit poste à soi, le fait de partager, comme vous dites, c'est très tendance, quoi. Je veux dire, tout le monde met un petit peu, enfin, en même temps, ses commentaires du monde dans lequel on est, la société va mal, la li, la la. Moi, j'aime bien titiller aussi, vous voyez. Mais je veux dire, c'est pas comme ça non plus que... C'est pas derrière son écran, avec son clavier ou son petit téléphone qu'on va changer les choses aussi comme ça, quoi. Enfin, oui, chacun donne son avis du monde et non, moi, j'ai pas le même que le tien, très bien. Et enfin... Vous trouvez pas qu'on est trop dans les blablas, trop dans les commentaires, trop dans la... Dans la justification, dans le... Moi, je vois mieux que toi et moi, je suis plus intelligent et moi... Non, vous trouvez pas ?
Bah, on peut prendre tous les angles. Bon, si je prends mon cas, moi je suis travailleur social, je travaille avec des sans-abri qui sont sous addiction, sous assuétude. Bon, moi je suis sur le terrain, je coordonne une équipe de terrain, je suis là depuis des années, je fais ce métier là depuis longtemps.
Combien d'années ?
Ici sur Bruxelles maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille sur Bruxelles. J'ai travaillé plutôt garde du midi avec plutôt sans-abri, on va dire, classique. Et maintenant, je travaille ici, quartier Nord, où je travaille plutôt avec des sans-abri qui sont qui fument du crack, qui s'injectent, enfin voilà quoi. Donc c'est un autre type de public que je ne connaissais pas et que j'ai appris à connaître il y a 2 ans. Voilà. J'ai aussi été à Grande-Synthe, à Calais, pour aider des migrants. J'ai logé des migrants à la maison. Quand il y a eu la crise ici de l'accueil, je venais ici récupérer des migrants, aider des migrants, donner à manger, donner des sacs de couchage. Donc, le terrain, la pauvreté, tout ça, je la connais depuis longtemps. Et moi-même, je viens d'une famille pauvre. Mon père était mineur. Je suis né dans le Borinage dans les années 60. Je sais ce que c'est. Donc, voilà. Mais maintenant... Comment l'exprimer ? Comment essayer de donner à réfléchir aux gens ? Là, j'ai commencé à faire des posts sur la pauvreté, sur les chômeurs, sur les malades. Je vais commencer à faire des posts sur la migration. Je vais commencer à faire des posts sur les usagers de drogue. Et donc, amener des sujets qui sont des fois plus polémiques, plus ancrés sur le terrain. Là, j'ai parlé dernièrement des travailleurs sociaux qui sont mis au chômage à cause de ce manque de gouvernement. Donc voilà, j'essaye aussi de mettre des sujets qui vont être beaucoup plus en tension et tout ça. Voilà, et pas seulement pour avoir « Ah, mais moi, j'ai tel point de vue ou j'ai tel point de vue ». Non.
Parce que ça fait un peu penser, quand je discute avec toi, là, maintenant, c'est quand même un peu plus profond que ça, quoi, que tes posts. C'est pas simplement « j'ai un avis, tiens, je le partage », tu vois.
Non, je ne veux pas être sur des trucs comme ça, mais de temps en temps, je parle de choses légères, de temps en temps, je parle de politique, et de temps en temps, je vais parler de choses beaucoup plus de terrain, beaucoup plus ancrées, beaucoup plus fortes. Mais à un moment, je ne me limite pas à que la pauvreté, que le machin de ça. Ce matin, j'ai fait un article sur l'aéroport de Charleroi parce que je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Voilà. Et donc, voilà, il y a un sujet qui vient, et ce sujet m'intéresse. Je trouve que faut en parler, j'ai envie d'en parler en tout cas. Après, les gens, je m'en fous un peu de ce qu'ils pensent, quoi. Je vais le dire clairement. Je me fous un peu de ce que les gens pensent. S'il y en a qui pensent comme moi, c'est bien. S'il y en a qui pensent pas comme moi, c'est bien aussi. On peut en débattre. À partir du moment où le débat se fait dans la politesse et tout, moi, il y a plein de gens avec qui je ne suis pas en accord sur des choses. Et alors, c'est pas grave. C'est ça qui fait la démocratie aussi. C'est le débat. Tant que le débat reste poli, dans un cadre, comment dire, respectueux de chacun, et voilà. Et après, les gens, ce qu'ils en pensent de ce que j'écris, alors vraiment, hein, je m'en fous un peu.
C'est contradictoire en même temps. Hein. Bah, vous écrivez et vous en foutez des gens s'ils lisent ou pas, quoi. Normalement, on écrit et on espère que les gens vont lire et ça va poser des questions et ben voilà, on est...
Je vais pas aller... sinon, si je ne m'intéressais qu'à ce que les gens pourraient penser, je n'irais que dans des choses consensuelles. Et là, j'ai plus envie d'aller dans des choses... j'ai pas envie d'aller dans des choses consensuelles. Quand j'ai parlé, par exemple, des soirées non mixtes, il n'y a rien de consensuel là-dedans. Moi, quand je vois le tombeau d'insultes que j'ai reçues, c'est assez impressionnant. Et ça démontre quand même ce qui se passe dans notre société. Et ça démontre de ce qui se passe dans un système patriarcal et tout ça. Sinon, je parlais dans le consensuel, hein, et puis on va parler de choses qui plaisent aux gens, ou on va parler de politique parce que c'est clash. Je parle de ce que j'ai envie de parler, c'est tout, de ce qui me tient à cœur. Ou bien alors, quand j'ai eu une discussion avec ma femme sur un sujet, je dis, tiens, ce sujet-là est intéressant, j'ai envie d'en parler. Voilà comment je fonctionne. Et ce qui fait que ça part un peu dans tous les sens, des fois. Hein. Voilà, je veux parler d'un sujet, et puis de quelque chose qui n'a rien à voir le lendemain. Et puis voilà, donc il n'y a pas une ligne éditoriale dans ce que j'écris. Pas du tout.
Il y a une ligne, moi, ce que je pensais. Mais t'en as quand même un petit peu parlé là. C'est ton engagement quand même social. Je veux dire, par exemple, s'il existe du micro ouvert, c'est parce que... C'est parce qu'on donne souvent très peu la parole aux gens, quoi, tu vois. On donne toujours dans les médias la parole aux mêmes personnes. Il y en a marre. Du coup, il y a envie de tendre le micro à des gens comme toi et moi, quoi. Voilà. Et du coup, toi qui crées des posts, j'ai envie de me dire, tiens, c'est quoi ta démarche? C'est quoi... voilà. C'est ça l'idée.
Ma démarche, enfin, voilà. Je viens du social. Je ne venais pas du social avant. Hein.
Moi, tu venais d'où ?
Moi, je suis un ancien militaire. Donc, moi, j'ai quitté l'école, j'avais 14 ans. Je vivais dans une famille, on va dire, de baraki, dans le Borinage. Et puis, je suis très, très vite parti de la maison à 14 ans. Et à 18 ans, il y avait le service militaire. Je suis rentré dans l'armée et je ne savais faire que ça.
Jusqu'à quel âge, du coup ?
J'ai fait 15 ans dans l'armée. Donc... je ne savais pas, j'étais pas quelqu'un de bête, mais j'avais plein de manques puisque j'avais pas été à l'école en orthographe, en plein de choses, en structuration de la pensée, tout et tout. Et l'armée m'a appris énormément de choses. Et quand je suis sorti de l'armée, je suis devenu éducateur sportif. Et c'est quand je suis revenu en Belgique où j'ai été touché un peu par ce que je voyais à Bruxelles, cette pauvreté, tout ce qui se passait. Donc J'ai travaillé en CPS, ensuite j'ai travaillé dans une ASBL qui s'occupe de sans-abri, j'ai été bénévole, je suis parti à Grande-Synthe, j'avais fait un petit groupe Facebook pour réunir des gens où on logeait des migrants, où on récupérait des vêtements pour les amener aux migrants et tout ça, j'ai logé des migrants à la maison. Quand j'étais en Afrique, j'ai vu des réfugiés, j'ai vu des camps de réfugiés. Et quand je suis venu en Belgique, j'ai vu ce qui se passait ici. Et je dis, c'est pas possible, quoi. On peut pas faire ça dans un pays comme le nôtre, c'est pas possible.
Qu'est-ce qui est pas possible ?
Ben, de laisser les gens dehors.
Mais pourquoi ?
Mais...
je vous demande un peu plus. Allez-y, approfondissez.
Non, mais attends.
Parce que par rapport à d'autres discours qu'on entend, je caricature, hein, mais s'il y a des gens dehors, ils avaient qu'à mieux travailler à l'école, tu vois, ils avaient qu'à... Oui.
Si c'était si simple. Je prends l'exemple des migrants. Ici, on jette les migrants dehors, on les chasse. Moi, je me rappelle, la police qui faisait des rafles au parc Maximilien à 4h du matin. J'étais là parce que j'allais réveiller les migrants. Et moi, en étant en Afrique, j'ai vu en tant que moi militaire ce qu'on faisait là-bas. Hein. Je l'ai vu. Hein. Et j'ai vu le système, j'ai vu ce qui était mis en place. À l'époque, c'était parce que j'étais dans l'armée française à cette époque-là. Et c'était... avec Mitterrand à l'époque, ensuite Chirac, où je voyais un peu toutes ces magouilles, où je voyais un peu, on mettait un dictateur en place, on en sortait un autre, tu voles les biens qui sont là-bas, tu voles tout ce qui est là-bas, et quand le migrant il est dans la misère et qu'il veut trouver un peu de quoi nourrir sa famille ou d'avoir une vie meilleure et qu'il vient ici, tu le jettes. C'est bien, tu voles chez lui, mais après, une fois qu'il est ici, tu le jettes, tu t'en occupes pas, c'est pas normal, quoi. Enfin, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a... Voilà. Et ça me rappelle en même temps ce que je faisais quand j'étais en Afrique. J'en suis pas toujours très fier, mais voilà. Ben oui, parce que si je prends un exemple, à une époque, c'était en 1991, quand il y a eu la guerre civile entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Moi, j'étais militaire à l'époque à Djibouti. Et donc, on a plein de camions, de réfugiés qui arrivaient du nord de Djibouti, qui passaient la frontière. Et le gouvernement djiboutien demandait à l'armée française de l'aider à gérer ce problème. Et donc, nous, on récupérait les migrants, on récupérait les réfugiés, on récupérait les militaires qui fuyaient, on récupérait leurs armes, on les mettait de côté, on faisait des trous, on les détruisait.
Mais les armes ?
Oui, ben, y en a qui étaient armés. En fait, c'était l'armée éthiopienne étant en déroute quoi, à l'époque. C'était l'opération Godoria, je m'en rappelle très bien, cette opération. Mais le gouvernement djiboutien ne voulait pas que les réfugiés restent sur son territoire.
Quoi ?
Bon,
je ne me souviens plus.
Oui, je m'en souviens.
Des fois, j'aime bien très concret.
En fait... Bon, je faisais pas partie du gouvernement, mais on s'aperçoit quand même que c'est un pays qui est en tension, Djibouti, où il y avait déjà des problèmes entre les Afars et les Issa, donc ceux du nord et du sud du pays. Et donc, ils voulaient pas des tensions supplémentaires dans leur pays, quoi. Donc, avoir des migrants, sachant que la Croix-Rouge n'était pas encore en place. Et nous, on avait reçu des ordres, c'était, OK, les migrants, enfin, en tout cas, ceux qui fuyaient l'Éthiopie arrivaient par le nord. Et comme Djibouti, c'est un tout petit pays, et la nuit, on leur faisait passer la frontière par le sud, quoi. Et on les renvoyait. Enfin, voilà, ça se passait comme ça. Bon, donc, ce genre de choses, c'est très régulier de la part des pays occidentaux. Quand on part dans ces pays-là, voilà ce qu'on fait. Moi, j'étais jeune, je suis rentré dans l'armée à 18 ans, je l'ai quitté à 33. Quand on est jeune, on est un peu malléable, on a envie d'un peu d'aventure, on se pose pas trop de questions, et donc, on obéit aux ordres.
Mais ça allait à d'obéir aux ordres.
Ça. Des fois oui, des fois non. Voilà. Moi, je me rappelle, il y avait une famille qui était dans un camion. Ils avaient deux enfants, ils n'avaient rien mangé. J'ai sorti mon sac. Dans mon sac, j'avais ma ration de combat. Je leur ai donné des biscuits. Je me dis, bon, moi, je peux manger demain, il n'y a pas de souci. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un cœur quand on voit ce qui se passe. Mais voilà, il y a des ordres, il y a une mission. On nous dit, ah oui, mais attention, parce que s'il reste là, ça va poser des problèmes et tout. Et puis, ben voilà, quoi. Enfin, et quand on revient en Europe, et quand on voit comment nous, on vit, et comment on les traite, alors que là-bas, déjà, on les traite mal, et qu'on crée, en fait, quand on va là-bas, on crée les situations qui amènent à la migration. C'est nous qui les créons.
Oui, quand on dit nous, c'est l'Occident, quoi. L'Occident, c'est ça.
Nous, on est responsables.
L'Europe.
Oui, mais on est responsables. Nous, citoyens, on est responsables aussi, je crois. Parce qu'on ne dit rien, on ne fait rien. Ah oui, mais bon, quand même, on a besoin du pétrole, on a besoin du gaz, on a besoin de l'uranium. Ah ouais, c'est bien, on se chauffe. On se chauffe, mais en volant tout ce qu'il y a là-bas. Enfin, voilà. Moi, je vois ce qui se passe au Mali. Mon ancien régiment où j'étais avant était au Mali. Et quand je suis parti en Corse, j'ai rencontré des gens de mon ancien régiment. Et on a parlé de ce qui se passait au Mali. C'était clairement pour l'uranium qui est au nord du Mali, quoi. Point. C'est pas pour les Maliens ou des choses comme ça.
Mais on le sait, ça, de plus en plus, non?
Alors,
les gens qui veulent vraiment réfléchir, qui se posent des questions, je veux dire, ça va, on commence tout doucement. On sait bien qu'on va plus faire la guerre pour amener la démocratie là-bas, tu sais.
Alors, on le sait, oui. Dans un certain, une certaine dans la population, on le sait, et a envie d'ouvrir les yeux. Une grosse partie de la population le sait, mais ferme les yeux et ne veut rien dire et l'oublie rapidement. Moi, je pense vraiment qu'il y a des gens, ils s'en foutent. Réellement, ils s'en foutent, les gens.
Ah bah oui, oui. Bah, il y en a, ils n'ont pas spécialement envie de. Oui, oui, bah. Il n'y a qu'à regarder comment on vit.
et c'est ça, moi, qui m'a posé problème. Alors voilà, pour en revenir là, c'est de se dire, moi j'ai une belle vie, je gagne bien ma vie, j'ai une maison, j'ai une famille, tout va bien. Mon devoir c'est ça aussi, c'est d'en parler. Et ça ce sont des sujets qui vont arriver bientôt, hein. C'est d'en parler de ça, il faut en parler.
Et parler de quoi exactement?
De ça, de ce qui se passe, de ces migrants qu'on chasse, de ce qui se passe avec la police qui passe un coup de cutter sur des tentes des migrants en plein hiver, de ce qu'on fait en Afrique. Et de ce qu'on est en train de faire encore maintenant.
Tu fais des posts sur l'Afrique, non, hein?
Ça va
arriver.
Mais il faut du temps. Non, mais...
Ouais, t'as démarré au mois d'août, cool, quand même.
Ça va arriver, mais il faut du temps. Il faut vraiment du temps. Et il faut aussi que ça soit le bon moment. Parce que c'est des choses sur lesquelles tu ne peux pas parler en 2 minutes. Et si j'en parle, ça va être sur plusieurs postes. On va mettre le contexte, on va parler de certaines choses, on va remettre... De l'historique aussi, parce qu'il faut mettre de l'historique aussi. L'historique de la Belgique, par exemple, ou de la France.
Ouais, moi, du contexte, quoi.
Et oui, il faut travailler là-dessus aussi, quoi.
Oui, mais t'as le temps, non?
Ouais, voilà. Oui, j'ai du temps. Hein.
Non, mais je veux dire que t'as le temps. Je veux dire, il y a personne au-dessus de toi qui te dit tu dois te grouiller. C'est non, toi qui fais les choses à ton rythme.
Je vais faire ça mon rythme. Je vais travailler là-dessus. Mais voilà, il y a des choses qui me touchent. C'est comme ce que j'ai vécu à Calais, où j'ai vu des tentes déchirées par la police. Je respecte profondément l'uniforme. J'ai des amis policiers. Je respecte profondément l'uniforme. Je trouve que c'est pas toujours un métier facile. Et putain, l'honneur, quoi. Et les gars, vous êtes en train de déchirer des tentes. Il y a des femmes, des enfants en plein hiver. Mais c'est quoi ton honneur là-dedans, quoi? Enfin, tu vois?
Qu'est-ce qu'ils disent? Tu t'es jamais confronté à eux sur ces questions-là en direct?
Non, on m'a déjà pris mes papiers, on m'a déjà interrogé, on m'a déjà photographié mes papiers et tout. Mais on n'a jamais eu de discussion sur ce sujet, tu vois. Mais moi, en tant qu'ancien militaire qui ai porté l'uniforme, qui ait une arme, j'estime que porter une arme, c'est une grande responsabilité. Et donc, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et moi, quand je vois ce qu'ils font... Ça me désole, vraiment. Ça me désole pour l'uniforme, ça me désole pour ce métier qui est important. C'est un métier important, quand même, policier, militaire. C'est censé protéger...
Ah ouais? Ah ouais?
Oui, c'est censé... Alors, je répète, c'est censé protéger les gens.
Ah non, moi, je crois pas à ça.
Non, mais c'est censé.
Non, mais même dans le mot... Enfin, moi, je crois pas que c'est censé protéger les... Je ne crois pas du tout. Je crois que c'est simplement... Ils sont là pour protéger les richesses, protéger les gouvernements, protéger... Et on fait croire que c'est pour protéger la police, les gens, évidemment.
Je suis en partie d'accord avec ça. Mais moi, en tant qu'ancien militaire d'expérience, quand on est parti en mission et qu'il a fallu dégager des civils qui étaient dans des situations compliquées, on était là carrément pour protéger les gens. Parce que les gens étaient dans des situations compliquées, il a fallu les sortir de là. Et donc ça a été mon boulot. Et ça, voilà, je l'ai fait et je suis content de l'avoir fait. Après, maintenant que ça soit instrumentalisé, là je suis tout à fait d'accord.
Non, mais c'est conçu pour quoi, c'est conçu pour à la base, si tu remontes un peu l'histoire avec un grand H dans le temps, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein.
Oui.
On dit les gens, on fait croire aux gens que c'est pour les protéger. Et en fait, c'est pour protéger les puissants, c'est pour protéger l'État, c'est pour protéger les gouvernements, tu vois.
Alors, je suis d'accord.
Regarde les militaires, c'est pour aller créer le chaos. Ah oui, oui. C'est pas eux qui décident, ça se passe toujours en haut. Hein.
Non, mais là-dessus, sur ce point-là, je suis d'accord. Mais l'autre point de vue, pour moi, est important aussi. Je discute avec beaucoup de policiers ici dans le quartier Nord. Ce sont des gens avec qui je travaille. Eux, vraiment, leur objectif, c'est la protection de la population, oui, d'aider les gens.
Il y a toujours des cas à part, mais je veux dire, profondément, comment je dirais...
institutionnel.
Structurellement, voilà, tu vois...
Structurellement, je peux être d'accord avec ça. Structurellement, je peux être d'accord avec ça.
Alors, c'est rigolo, quoi, parce qu'aujourd'hui, dans la société, tout est mélangé comme ça. Tu sais, avant... t'avais les gauchos qui étaient vraiment anti-militaristes, voilà. Tu vois, au moins c'était clair et net. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, il y a des gens, ils sont ni de droite ni de gauche, mais des fois ils tiennent des discours, tu sais pas très bien s'ils sont pour les flics ou contre les flics. Enfin, tu vois, il y a une analyse un peu confuse de tout comme ça. Je sais pas si c'est ton sentiment aussi.
Mais en fait, oui, mais la confusion, elle est partout en ce moment. Donc, mais après, c'est pas que je suis pour ou contre la police. Il y a des flics bien et puis il y a des flics pourris. Et dans le social, il y a des travailleurs sociaux qui sont géniaux et puis il y en a, ce sont des vraies pourritures. Ben et voilà. C'est clair. Donc pour moi, c'est clair. Mais que ce soit dans tous les corps de métier, c'est la même chose. Après, c'est moi, quand je dis qu'est-ce que nous, on peut amener en tant qu'humain ? Est-ce qu'on a envie de faire du bien ou pas ? Est-ce qu'on a envie d'aider, soutenir, accompagner ou pas ? Et ça, on peut le faire en tant que travailleur social, mais en tant que flic aussi. Moi, il y avait des flics sur les autoroutes. Ils avaient, dans leur voiture de patrouille, une petite glacière avec des boissons et des sandwichs, parce que quand ils voyaient des migrants, ils savaient que les migrants n'avaient pas mangé. Ils leur donnaient des sandwichs et des boissons, quoi. Tu vois ? Et donc... qui amenaient du côté humain. Même dans leur travail qu'ils étaient obligés de faire, ils amenaient du côté humain. Donc voilà.
Pourquoi pas, mais structurellement, leur métier est un sale truc, quoi. Enfin...
Oui. Et puis dans la police, moi, je connais des gens qui sont géniaux. Et puis t'en as, pour moi, c'est des nazis. Point, c'est tout. Il y en a, bien sûr, mais comme certains médecins aussi. Tu vois, donc...
mais...
Voilà, enfin, moi quand je vois dernièrement qu'il y a un gynécologue qui a violé des femmes, enfin un moment quoi, voilà. Et il y a des prêtres qui sont pédophiles, enfin voilà quoi. Donc, moi je m'intéresse plus à ce que les gens font, plutôt que l'habit qu'ils ont, tu vois. C'est ça qui m'intéresse.
Oui, mais enfin, oui, mais alors on s'amuse comme ça. Je veux dire, moi, les flics, parce que c'est de ça que je veux dire, un médecin il est là pour soigner, c'est clair. Après, il y a des enfoirés de médecins.
Ouais.
Mais le flic, il n'est pas là pour... C'est là qu'il y a déjà tromperie, quoi. Enfin, voilà, tu vois. Le flic, il est tout ce qui va avec, il n'est pas là pour protéger les gens. Enfin, regarde les manifs, quoi.
Ah, oui.
Je veux dire, les gens sont mécontents du système dans lequel on est. Bah, les premiers qui sont là, c'est les flics. Puis après, on va développer les militaires et puis je sais pas quoi pour empêcher les gens de s'exprimer parce qu'ils sont mécontents, quoi. Genre, on peut plus manifester. Enfin, tu vois, c'est quand même un drôle de métier, quoi.
Ah, alors, maintenant, ok.
On va pas rester calé là-dessus. Hein.
Mais juste un mot. En fait, c'est pas les flics que moi je vais. Sur qui j'ai envie de taper, c'est plutôt sur les politiques qui s'en servent. Parce que pour moi, dans ce jeu-là, en ce moment, et on le voit beaucoup, c'est les politiques qui sont en train de tout dévier. Tout. Les politiques des villes à santé, les politiques des villes à sécurité sociale, les politiques des villes armées, les politiques des villes à police.
Dévie, mais pourquoi tu dis dévie ? Je suis d'accord. Il ne dévie pas pour les militaires et pour les flics. Les flics et les militaires sont là pour protéger les gouvernements, l'État, etc. Ça, c'est une chose. Les médecins, c'est autre chose. Ils sont censés soigner... Tu dis ?
On ne sera pas d'accord sur tout.
Oui, mais voilà. c'est pour ça que je dis passons à autre chose. Ouais. Parce que toi, tu as été militaire. Alors évidemment, tu vas défendre ça parce que ça t'a nourri. Il y a ça aussi, hein, il y a des gens...
Il faut savoir toujours d'où on parle.
Attends, attends. Parce que, je veux dire, là, maintenant, on relance le service militaire volontaire à 2000 euros. On enlève le chômage et on lance... Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des incitations comme ça, mine de rien.
Alors qu'ils ont, en tout cas en région wallonne, ils ont voulu fermer le service citoyen. Le service citoyen qui est d'une utilité folle. Moi, j'ai eu la chance de suivre des jeunes qui étaient en service citoyen quand j'étais dans une autre ASBL. Et ils venaient, c'était des jeunes qui ne savaient pas ce qu'ils allaient faire de leur vie, ou alors qui étaient d'une timidité impressionnante, maladive et tout ça. Et quand ils sont sortis du service citoyen, qui étaient sûrs d'eux, qui savaient où ils avaient envie de faire, et j'en connais un, qui était un gars génial, Carlos, quoi. Quand il est arrivé au service citoyen, il ne savait pas quoi faire. Ensuite, il m'a aidé à travailler avec des sans-abri, je lui ai donné des responsabilités, et maintenant, il travaille pour aider les sans-abri. Et il travaille dans une commune, il aide les sans-abri, et c'est quelqu'un qui est engagé, alors que quand il est arrivé, il ne savait pas quoi faire. Et une autre jeune femme qui est arrivée, qui était d'une timidité maladive, et maintenant, elle est rayonnante. Et le service citoyen a permis à ces jeunes, voilà, d'avancer, de s'engager dans la vie, d'aider les autres, de s'aider eux aussi. Et donc voilà. Et après, s'ils veulent mettre le service militaire, quoi, c'est une débilité crasse. C'est débile.
Ouais, bah, voilà, je veux dire, pourquoi ?
Ça, c'est les politiques qui encore font de la communication, encore font de la manipulation, comme ils ont l'habitude. Pour moi, enfin, je suis désolé. Les politiques, ce sont des gens qui manipulent en grande partie, pas tous. Je connais des politiques qui sont gentils.
Toujours comme ça, toi, t'es toujours. Ils sont vraiment. Mais non, pas tous. Non. Les policiers, non, mais pas tous. Je sais pas, mais évidemment que. Attends, je vais te donner la parole. Mais bon, moi, je te titille un peu parce que sinon, c'est pas marrant. Mais c'est pas une vision bien radicale, bien tranchée sur le monde dans lequel on est un peu. T'as toujours envie d'un peu récupérer quand même, même les flics, quoi. Non, il y en a quand même des gentils, quoi.
C'est un peu celui qui a envie de sauver le petit chien qui est perdu, là. Non, c'est pas ça. En fait, je connais des politiques qui m'ont dit, ok, je me suis engagé parce que j'avais envie d'aider et tout, et au bout d'un mandat, ils sont partis. Ils sont partis, hein. Et donc, t'as des gens qui se sont vraiment engagés en politique pour des raisons correctes, pour aider, pour participer, et qui sont
arrivés. Comment ton prénom ?
Raymond.
Raymond. Écoute, tout ce qu'on discute là, on sait bien qu'il y a des gentils, des méchants, les gouvernements, et les politicards, voilà. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui le monde comme il va ? Alors t'es pas Madame Irma ?
Non.
Mais qu'est-ce que tu pressens là avec les politiques qui sont là mises en ce moment ? Toi qui es dans le social, qui a un pied de pied dedans quand même.
Je n'ai pas une vision très optimiste. Et je pense réellement que ça va se casser la gueule. Mais grave, quoi. Et je pense vraiment qu'on va dans le mur. On y est presque. Il manque encore quelque chose avant d'y aller.
Ça veut dire quoi, ça, quand tu dis on va dans le mur, quoi ?
On est une société qui se dégrade de plus en plus d'un point de vue social, d'un point de vue politique, d'un point de vue financier. La prochaine crise financière qui va arriver, à mon avis, elle va faire du mal, mais toujours aux plus pauvres. Et qu'à un moment, je ne sais pas où ça va, mais moi, je ne vois pas du bon. Je ne vois vraiment pas du bon.
Il n'y a pas que toi. Hein.
Ben oui.
Tu dis des choses.
Et voilà, il n'y a pas que moi. Et le problème qu'il y a, on est sur un gouvernement qui se crispe de plus en plus, qui met de plus en plus de police, d'armée, de règles, de restrictions et tout ça, parce qu'il sait qu'à un moment, ça se tend et qu'à un moment, il va falloir resserrer la vis. Et moi, je pense vraiment que les gouvernements sont en train de se préparer à ça, vraiment. Mais ce qui est triste, c'est qu'on est face à une population qui est endormie. Et c'est d'une tristesse folle, quoi. Les gens pensent que... Moi, j'en ai encore qui me disent « Ouais, mais regarde, on a des bonnes voitures, on a de bonnes maisons, mais ça ne suffit. »
Les gens autour de toi, des copains à toi ?
Ouais.
Ouais, c'est pas des pauvres. Tu travailles avec les pauvres, mais t'as des copains riches.
Bah oui, j'ai des copains riches, bien sûr.
C'est pour ça que ta pensée n'est pas très radicale et rentre dedans. C'est parce qu'il y a des flics gentils quand même, hein.
Là, coincé. Ouais. Non, mais. Bah, oui.
Moi, je titille, j'aime bien, parce que c'est pas marrant.
T'as raison. Non, mais je crois vraiment qu'on est parti avec une population qui est complètement endormie, qui s'est laissée endormir et qui n'a plus la hargne pour défendre ses droits. Moi, mon père, dans les années 60, il a participé en manif, ils ont gagné des droits, ils se sont battus alors qu'ils n'avaient rien. Et là, maintenant, on est face à une population, je suis triste de dire ça, hein, de gens qui sont devenus des chamallows. C'est-à-dire qu'on les a endormis, on les a mis dans un cocon, comme ce crapaud qu'on met dans de l'eau tiède et puis qu'on chauffe doucement, et on est là-dedans. Tu vois, c'est vraiment ce que je pense.
Et ça va peut-être se réveiller aussi, non ? Avec ces politiques qui deviennent de plus en plus dures, il va y avoir de plus en plus de gens dans la rue. Au mois de janvier, quoi, c'est 150 000 de gens qui vont se retrouver au CPS. Enfin, ça va être énorme, quoi.
C'est une horreur. Et là, j'en veux énormément aux syndicats. En fait, les syndicats qui, à la base, étaient vraiment quelque chose qui permettait de structurer les luttes sociales, c'est laisser endormir également. Parce que maintenant, les syndicats, il faut être... je dis pas bien pensant, je dis plutôt... Oui, il faut pas être trop radical. Parce que sinon, on peut pas rentrer dans la négociation. Mais vous comprenez... Mais merde, quoi. Enfin, à un moment, le syndicat, il n'est pas là pour faire mumuse avec le gouvernement. Il est là pour qu'il y ait un réel rapport de force. Et le rapport de force, en ce moment, il n'y est pas. Quand je vois la dernière manifestation qu'il y a eu, qui était magnifique...
Laquelle ?
Ben, la toute dernière où ils étaient 180 ou 200 000, hein, parce que bon, il y en avait partout ici à Bruxelles, quoi. Et il fallait tout de suite enclencher derrière. Tout de suite derrière, il fallait en remettre. Et ils ont fait cette petite grève de 3 jours, toute gentillette, qui n'a servi strictement à rien, puisque le gouvernement, même Bardeweber, a dit « Ah, il y a eu une grève, on n'en a pas fait attention ». Comme s'il n'avait rien eu. J'ai eu l'impression d'entendre Sarkozy à un moment qui disait « Ah bon, il y a des grèves en ce moment ». C'était ça, quoi. Mais quelle horreur ! Et les syndicats se laissent endormir là-dedans parce qu'il faut négocier. Ben, la négociation, des fois, il faut la forcer, quoi. Et puis des fois, je pense qu'il faut vraiment rentrer dedans et que la négociation, c'est un rapport de force. Et le rapport de force, pour moi, ce sont les ouvriers, ce sont les travailleurs, ce sont eux qui l'ont réellement. Et si demain, nous, on décide de tout arrêter... Le gouvernement, les riches et tout ça, ils vont se calmer. Quand il y a eu les gilets jaunes en France, c'est très simple ce qui s'est passé. Pourquoi Macron a lâché un peu, hein, pas beaucoup, mais il a lâché un peu au début. Pourquoi ? Parce que les patrons ont été le voir en disant « Et là, c'est le bordel, là. Et ce bordel-là, on peut pas. » Et donc, Macron a lâché un peu de lest. Et après, il y a eu le Covid qui a fait que ça s'est arrêté et tout ça. Mais non, on doit y aller au finish. Et le rapport de force, il doit être là.
Tu crois pas, Raymond, je suis d'accord avec toi de ce que tu dis, hein, qu'on est endormi, qu'on attend, on se demande, les syndicats, tout ça. Mais il y a quelque chose aussi, parce que comme on parlait de médias, hein, toi tu fais chronique là, sur Facebook. C'est-à-dire que les médias qui sont à la botte des dominants, quoi, les médias mainstream, eh ben, on va pas te parler de la lutte qui a gagné à Outiklou les bains de pieds. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression que comme ça, que il y a quand même une lutte, des luttes comme ça dans le monde de plus en plus fortes, qui a même géopolitiquement, il y a une autre stratégie qui se met en place avec la Russie, la Chine, l'Afrique contre l'Occident. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, que ce serait pour ça aussi qu'il y a une tension qui monte, nous, du côté de l'Europe, puisqu'on est en Europe, parce que il y a une richesse qui bouge de place, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, il y a ça que je voulais dire. Qu'est-ce que t'en penses ? Et il y a aussi plein de gens qui luttent partout. Il y avait un gars comme ça qui avait recensé toutes les luttes un peu partout dans le monde, d'une jeunesse comme ça en révolte, que ce soit en Malaisie ou au Népal. Enfin.
Maintenant, si on regarde les luttes qu'il y a actuellement, comme au Népal, en Malaisie et tout ça, on s'aperçoit que les réseaux sociaux ont été forts déclencheurs de ça. Parce que les réseaux sociaux ont permis l'information. Les réseaux sociaux ont permis aux gens de communiquer entre eux et de s'organiser et de s'informer.
Moi, ce que je voulais simplement dire, parce que le temps, il avance, c'est que, tu vois, on dit d'une main, oui, nous, ici, en Belgique, bah, c'est mou, les syndicats, la lutte, bof, tu vois. l'État, les gouvernements qui est là de droite et qui frôle avec l'extrême droite, enfin qui donne la main aussi à l'extrême droite. Pourquoi ça devient si tendu? C'est parce que qu'est-ce que t'en penses de ça, de ce que je viens de dire? C'est parce que géopolitiquement, il y a un autre ordre du monde, on va dire, qui se met en place. Des autres, enfin, tu vois, avec l'Asie, la Russie, l'Afrique. Qui se positionne autrement, quoi. Du coup, ben, l'Occident, elle a peur, elle perd de l'acquis, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Clairement, l'Europe est en train de se faire manger de tous les côtés, parce que l'Europe, pour moi, c'est clairement allié aux États-Unis sans réfléchir, alors que les États-Unis, économiquement, n'ont jamais été nos amis, quoi. Et on s'aperçoit que ben, nous, on n'a pas de matière première, on n'a que de l'intelligence, et encore, elle commence à partir. Alors que l'Asie, l'Amérique du Sud et le continent africain sont en train d'avancer, de se développer, ils ont des matières premières et tout ça. Et nous, on s'est allié, l'Occident, on s'est mis dans un coin en pensant qu'on était les meilleurs, que notre système était le meilleur, que notre démocratie est la meilleure. Ah, les Chinois, c'est une dictature, les Russes, les machins. Ok, il y a des choses qui ne vont pas chez eux. Mais ils sont en train d'avancer, puis ils sont en train d'avancer comme nous. Et je pense que les politiques chez nous sont en train de voir que c'est en train d'avancer sans nous. Et ils commencent à avoir peur. Et donc ça se tend de plus en plus. Et on est en train de perdre. Et plutôt que de créer des synergies avec ces pays, plutôt que de créer des synergies, non, on est en conflit permanent. Et ça, je trouve que c'est... voilà quoi, c'est pas une vision à long terme des choses.
Je vois bien, enfin, on discute ensemble, mais je vois bien qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, même si on croit se comprendre, ouais, mais on se connaît pas du tout, ben c'est non, toujours non. Ça. Quand on met un micro ouvert avec quelqu'un qu'on connaît pas. Ouais. Mais c'est ça qui est marrant aussi, c'est que. Ouais, c'est drôle.
Ben parce qu'on vient pas, on vient pas de la même place. On ne vient pas du même milieu, peut-être, on ne vient pas du même endroit. Et donc, c'est sûr que des fois, sur les mêmes sujets, ben, on peut les aborder de manière très différente. C'est normal, quoi. Enfin, c'est logique. C'est ça un peu qui fait aussi le débat d'idées.
Parce que moi, je m'en fous hein, que l'Europe, elle est en perdition, qu'elle perd de la force économiquement et tout. J'en ai rien. Enfin, tu vois, je veux dire, tout ce système ici, on est à la gare du Nord, là, tous ces buildings vitrés, là, toute cette...
Je suis d'accord là-dessus.
Je m'en fous carrément. Hein.
Je suis d'accord là-dessus. Moi aussi, je m'en fous. Mais le problème qu'il y a, c'est que plus on va perdre, et plus là-haut, ils vont se tendre. Et plus ils vont se tendre, et plus ils vont serrer la vis, et plus ils vont devenir autoritaires. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est que plus on s'aperçoit... Bah,
tu disais juste avant, on est trop mou, on est trop dans le...
Non, je ne parle pas de la population. Je parle...
Moi, je parle de la population, parce que c'est aussi la population qui est là, je veux dire. Ça va se tendre, mais peut-être que ça se tend, tant mieux, peut-être, parce qu'on va devoir sortir de notre zone de confort, je ne sais pas.
Tant mieux, mais quand je vois les dernières années, comment ça s'est passé, alors que les gouvernements, ça fait longtemps qu'ils cassent le social, la retraite, la sécu, les gens ne bougent toujours pas.
Non, c'est pas vrai, parce que par exemple en France, pour la retraite, je sais pas, il y avait 2 millions de gens dans les rues, attends...
Et la loi est passée et tout s'est éteint.
Oui, mais ça veut dire que petit à petit, les gens prennent conscience que même aller manifester à 2 millions, ça sert à rien, tu vois. Du coup, ça va... Je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Si le gouvernement se tend de plus en plus et devient de plus en plus autoritaire, les gens aussi vont le devenir, tu comprends. C'est forcé.
Ouais, j'espère qu'ils vont se réveiller et que ça va se tendre beaucoup plus. Et j'espère que les gens vont arrêter d'être dociles. Moi, c'est ça que j'espère, c'est que les gens arrêtent d'être dociles. Parce qu'en ce moment, on est encore trop dociles et on respecte encore un peu trop des lois qui sont complètement... Enfin, voilà, quoi. Enfin, non, il faut arrêter d'être docile. Et même pendant les manifs, je pense qu'il faut arrêter d'être docile. Parce que, ben voilà, moi, je trouve que même au niveau des manifs, ça va, on est bien gentils, quoi.
Ouais, t'es prêt à perdre une main et un œil ?
Ben, tu sais qu'il y en a qui ont perdu une main et un œil, et puis voilà, et puis ça a avancé. Et pendant en 68, ils ont avancé, ils ont cassé. Mais voilà, mais quoi, on va gagner les choses comme ça, en étant gentil, en restant les pieds dans les pantoufles. Ça n'a jamais existé. Plus on va rester à manifester d'une manière gentille, bien en règle et tout ça, là-haut, ils s'en foutent. Ok, manifestez les gars.
Tu parles de la violence alors ? Mettons-le sur la table, la violence.
Oui, la violence, elle va venir. Mais bien sûr qu'à un moment, la violence, elle va venir. À partir du moment où les gens n'ont plus le choix. Bien sûr que la violence, elle va venir.
Et surtout, nous, on est des privilégiés aussi dans la... Ça veut dire que demain, quand on va couper les aides sociales à des gens qui avaient déjà juste, au-dessus, là... qui avaient déjà la tête juste au-dessus, eux, ils vont tomber, quoi.
Ils vont tomber.
Voilà.
Et moi, je croise tous les jours... Bah, OK, je vais te donner un exemple simple. Dans mon équipe, j'ai une infirmière, j'ai un psy, j'ai une assistante sociale, enfin, voilà. Là, on vient de perdre le psy de mon équipe, parce que, ben, voilà, il n'y a pas de budget. Mais moi, dans la rue, la moitié des gens ont des problèmes psychiatriques. Et j'ai pas de psy pour... J'ai une infirmière pour tout le quartier nord qui fait un boulot magnifique. Mais elle est toute seule comme infirmière dans l'équipe. Elle n'a pas les moyens de s'occuper de tout le monde et de faire un suivi pour tout le monde. Le centre Athéna, qui soignait des sans-abri, des migrants et tout ça, ferme parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Et quoi ? Et là, ça, c'est pas de la violence, ça. Ça, c'est de la violence. Oh, pour moi, aller casser une bagnole, casser une vitre, machin de ça, lors d'une manifestation, pour moi, c'est pas de la violence, ça. Mais la violence, elle est là. La violence, c'est de fermer un centre médical qui servait aux plus pauvres. Ça, c'est violent.
Que vont devenir ces gens ?
Ben, ils vont crever. On va être clair, ils vont crever. Parce que dans la rue, il y a déjà des morts. À côté de la gare centrale, il y a un arbre. Ça s'appelle l'arbre des morts de la rue. Il faut aller regarder tous les petits jouets qui sont accrochés dessus, de tous les morts qu'il y a eu dans la rue à Bruxelles. Donc, en fermant un centre médical comme celui-là, on sait qu'on va créer des situations complexes avec des risques de mort. On le sait. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont dans ce centre médical, ils vont y aller, leur situation, le médecin va le voir, il va dire « Ok, c'est pas grave » ou « Ah, là, il faut faire attention, il vaudrait mieux que tu ailles à l'hôpital. » Mais s'il n'y a pas ce centre pour les conseiller, pour les aider, pour les guider, les gens vont rester dans leur merde, dehors, dans un squat, ou bien dans la rue, ne vont pas se soigner et risquent de mourir. Ou d'avoir une situation qui s'aggrave et qui, tout compte fait, va coûter plus cher à la sécurité sociale. Et donc... Et ça, c'est violent, ça. C'est encore plus violent que de casser une vitre lors d'une manif. Casser une vitre lors d'une manif, c'est rien. Il y a des assurances pour ça. Par contre, un mort.
Tu crois qu'en cassant des vitres dans une manif, c'est comme ça qu'on peut changer les choses ? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça, quoi ? Parce que c'est pas en cassant des vitres qu'on va avoir la retraite à 60.
Alors, il y a eu une histoire très sympa, c'était en Islande. En Islande, en 2008, quand il y a eu la crise financière...
Il y a 50 minutes, il reste 5 minutes.
5 minutes. Mais,
pour développer quelque chose.
Voilà, mais regarde, en Islande, ce qui s'est passé. Quand il y a eu la crise en 2008, d'accord, ici, en Europe, on nous a dit...
La crise des subprimes.
Ouais, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a dit aux gens, ben, tiens, il va falloir sauver les banques. Et donc, on a sauvé les banques, c'est sorti de nos impôts, et les banquiers sont tranquilles chez eux avec des gros salaires. En Islande, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les gens ont manifesté devant le Parlement, le Premier ministre a démissionné, ils n'ont pas payé les banques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas renfloué les banques, et les banquiers se sont retrouvés en taule. Point. Et ça s'est passé.
Mais maintenant, la politique en Islande, c'est quoi ?
Ah ben, la politique maintenant en Islande, je peux pas...
C'est ça qui est intéressant, voilà. Aussi, parce que des fois, on fait des grands coups de com' pour dire ce que tu viens de dire, et...
Oui,
un nouveau gouvernement tout aussi corrompu se met en place.
Sauf que nous, on a payé les banques, on les a renflouées et on est encore en train de le payer maintenant, tandis que là-bas, ils ont dit non, on ne rembourse rien. Et donc, ben, leur budget est resté stable, ils ont pu garder une certaine sécurité sociale, et je ne dis pas que c'est le meilleur des pays au monde, mais à un moment, les gens ont combattu le gouvernement, ils ont été assez violents devant le Parlement, moi j'ai vu des vidéos, c'était costaud. Et le gouvernement, il a fait marche arrière, quoi. Et qu'à un moment, s'il continue, ce gouvernement, à nous ignorer, à ignorer ce qu'on lui dit, c'est ce qui lui pend en nez. Et moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Hein.
Et quoi, de tomber ?
Bah, de tomber et qu'à un moment, les gens se fâchent vraiment.
OK. Et après, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se mettre en place. Parce qu'en Islande, on a envie de savoir c'est quoi la politique aujourd'hui suite à ça.
Je ne peux pas te dire parce qu'on ne sait jamais.
C'est.
Mais regarde ce qui s'est passé quand il y a eu les mouvements arabes, les printemps arabes. Okay, ils ont essayé de mettre des choses en place. Ça a fonctionné, ça a enjeté, puis ça en a arrivé des autres. Et donc ça demande de la vigilance de la part de la population. Une fois qu'on a cassé un peu le système, qu'est-ce qu'on met ensemble derrière ? Et pour ça, il doit y avoir des conventions citoyennes. Les citoyens doivent se mettre ensemble, apprendre à discuter ensemble, apprendre à mettre des projets ensemble.
Mais c'est ça, pas gagné, ça.
C'est pas gagné. Mais c'est une obligation de la part du citoyen. C'est à un moment, il doit devenir acteur. de ce qui se passe. Si on casse quelque chose et qu'on laisse la place libre, ça va recommencer. Et donc, il faut devenir acteur. Ici, il y a des colloques comme ceux qui nous arrivent, où tu as des citoyens, des gens qui se sont rassemblés pour mettre des choses en place, pour discuter, pour mettre des groupes de travail, pour aller sur des projets. Donc le citoyen doit devenir acteur. Il faut arrêter de donner un vote et ensuite de laisser faire. Ça, c'est fini. On ne peut pas. Le vote, pour moi, c'est un piège à con. D'accord ? J'ai pas envie d'aller voter. C'est un piège à con. Il faut que le citoyen ait la parole en permanence tout le long de la législature et qu'on puisse virer un gouvernement. Si je prends les engagés, par exemple, ils sont venus avec un projet lors de la campagne électorale. Actuellement, au bout d'un an et demi, ils ont mis 15% ou 20% de leur projet en marche. Ça veut dire qu'ils sont venus, ils nous ont enfumés. On devrait les virer, ces gens-là. Ils nous ont enfumés, on devrait les virer. Et quand je regarde le projet qu'ils avaient, il était bien. Moi, j'aurais pu voter pour ça. Ils nous ont enfumés. Et ils sont encore là, et on ne leur dit rien. Non, il faut les virer à coup de pied au cul. Point. T'as pas fait ton job, dégage. Et ça, il faut changer. Voilà.
Bon, Raymond, on a parlé plein de choses, hein, mais ça reliait tout ça. Toutes ces choses étaient reliées par le fait que, voilà, on est dans un monde, la société, on est en Belgique, ça va mal. Comment tu vois les choses? C'est quoi un peu ton expérience? Ben voilà, on peut toujours aller voir tes posts sur FB, quoi. Je mettrai le lien. Ben oui, chronique. Ouais.
Et puis bientôt, je vais mettre des posts qui vont être encore très peu consensuels, puisqu'on va parler de migration, on va parler de sans-abrisme, on va parler de la police aussi, et plein de choses comme ça. Donc voilà.
Et tu mettras de la pub après?
De la pub? Pourquoi faire?
Pour te payer?
Non.
C'est ça ton intention?
Non, alors là, je suis proche de la retraite, j'ai pas besoin de ça. Donc ça va, c'est bon. Non, surtout pas. C'est vraiment... Mais d'ailleurs, j'ai une rigolade. C'était mon beau-frère qui me dit « Ouais, mais ça te rapporte quoi, ça ?» Ben, ça me rapporte plein de choses. J'échange, je discute et tout. Et c'est bien, ça a bien plus de valeur que l'argent. Bien plus de valeur que l'argent. Non. C'est bien.
Merci, Raymond.
Merci à toi.